Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui est
Michel Husson. Bonjour, bonsoir.
Comme il est. N'aime pas le générique. Enfin, c'est pas grave, parce que peut-être qu'il n'aime pas non plus la mondialisation dont on parlait la semaine dernière. Et je crois pas dévoiler qu'il y a un scoop en disant qu'il fait partie du conseil scientifique d'Attaque, et qu'un des mots d'ordre d'Attaque est de dire qu'une autre mondialisation est possible. Pourtant, ça me semble toujours un petit peu étonnant, parce que la mondialisation, qui soit dit en passant, est quand même libérale, c'est-à-dire qu'il vise à libéraliser les échanges des marchandises, les transactions financières, etc., est quand même intrinsèquement au départ antinomique avec une régulation. Alors, je vois pas trop comment on peut dire qu'une autre mondialisation est possible.
Oui, une autre mondialisation est possible, mais justement une mondialisation qui soit fondée sur d'autres principes. Bon, alors par mondialisation, qu'est-ce qu'on entend ? La mondialisation libérale ou capitaliste, celle qu'on critique et qu'on combat. C'est fondamentalement, il y a plusieurs choses. C'est d'une part l'ouverture au commerce de tout le monde, que ce soit dans les pays du Nord et du pays du Sud. C'est plus on est ouvert, mieux c'est pour tout le monde peut y gagner. Deuxièmement, c'est l'ouverture, la liberté totale de circulation du capital. Tous les droits, finalement, la mondialisation, l'OMC, c'est souvent une déclaration des droits du capital. Liberté, égalité, mais pas fraternité. C'est-à-dire que tous les capitaux doivent être traités de la même manière, égalité. Ils ont le droit de se déplacer, d'aller où bon leur semble, de se retirer quand ça ne va plus. Donc, liberté du capital. Mais au fond, si on veut regarder justement comme conception de l'organisation de l'économie monde, il y a le postulat de base qui est fondamental et qui est, sur lequel est fondée toute l'allégorie, enfin les éloges, disons, de la mondialisation telle qu'elle se passe. C'est l'idée suivante. C'est l'idée qu'on peut réellement créer un seul marché mondial, c'est-à-dire mettre en concurrence directe les travailleurs de toutes les zones du monde. Bon, c'est ça l'idée de base. Et que l'aspect positif, c'est une espèce d'émulation qui fera que tout le monde va travailler mieux, de manière plus productive, etc. Et qu'au fond, tout le monde peut être gagnant dans cette opération. C'est ça le discours officiel. Or, ce discours officiel, on le condamne, on le critique, on le combat parce qu'il est faux dans la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, l'économie mondiale n'est pas homogène. Elle est constituée de zones ultra-productives, de zones peu productives, de zones moyennement productives. Et on ne peut pas l'organiser d'une manière rationnelle en postulant, en ignorant ces différences. Et donc, le phénomène qui se produit quand on ignore ces différences, c'est pas une mise à niveau des moins productifs vers les plus productifs, c'est au contraire une expulsion des plus productifs. Et en gros, finalement, l'espèce de règle qui préside à l'organisation économique mondiale actuellement, c'est toute production qui n'est pas associée à la rentabilité, disons, la plus élevée possible, avec des normes de rentabilité très élevées, est une production potentiellement donc non rentable, et une production qui doit être supprimée, et qui tend à être supprimée par justement la mise en concurrence directe. C'est-à-dire que on va créer des exigences, des normes de rentabilité tellement élevées que ceux qui n'y accèdent pas, tous les producteurs qui n'y accèdent pas, et donc les besoins sociaux qui sont associés, et donc les emplois qui correspondaient, qui réalisaient cette production, vont être niés, expulsés et supprimés, et évincés, si on peut dire, par ces normes de rentabilité.
Et est-ce qu'on pourrait avoir un exemple pratique de cela ?
On peut prendre deux exemples pratiques parce que c'est un phénomène réellement universel dans un qui est dans la zone du sud, disons pour aller vite, et un dans la zone du nord. Bon, dans la zone du Sud, l'exemple typique, enfin le plus parlant à mon sens, enfin parmi beaucoup d'autres, mais c'est l'exemple des paysans mexicains qui produisaient du maïs et qui étaient protégés doublement, d'une part par des tarifs, des quotas d'importation vis-à-vis du marché mondial, et d'autre part par des prix de garantie vis-à-vis du marché intermédiaire. On a fait sauter ces deux protection. En même temps, et c'est bien là qu'on voit que la mondialisation est à la fois un programme, disons, d'organisation de l'économie mondiale, mais aussi un programme des organisations à l'intérieur. On a fait sauter ces deux protections, et le résultat, c'est que les producteurs de maïs ou de café, d'ailleurs, dans le Chiapas mexicain, sont confrontés à des producteurs mondiaux, hein, notamment dans le cas du maïs, la production des États-Unis, ils sont pas rentables, ils coûtent deux ou trois fois plus cher pour des raisons historiques, pour des raisons aussi du fait que les États-Unis subventionnent leur agriculture. Bref, ils sont évincés. Au lieu d'être tirés, disons, par cette concurrence, qui est l'argument, la thèse néolibérale, ils sont évincés, ils disparaissent, et en même temps, plein d'industries de transformation intermédiaires, traditionnelles, pas très rentables, mais qui avaient été un début, un début d'ailleurs assez avancé d'industrialisation au Mexique. Donc, il y a eu cette éviction qui fait qu'ils ne sont pas rentables, parce qu'ils ne sont pas rentables par rapport aux normes internationales avec lesquelles on les confronte brutalement. Non, premier exemple. Deuxième exemple, mais qui est le même, mais avec dans une dimension, disons, sociale plutôt que spatiale, c'est la pression énorme qui existe, y compris dans des pays très riches et très productifs, sur les systèmes de protection sociale. C'est la même idée, c'est-à-dire que tout ce qui, dans les services publics, dans la protection sociale, dans la santé, etc., n'est pas rentable, va être potentiellement menacé d'expulsion, c'est-à-dire au profit de ce qui, dans ces secteurs, est rentable. Donc, à travers les processus de privatisation au sens large, hein, des secteurs publics, de l'énergie, mais aussi de la protection sociale, on va extraire ce qui est rentable et le reste, potentiellement, sera expulsé. C'est-à-dire que l'expulsion du paysan mexicain par rapport à la concurrence de l'agro-business américain et l'expulsion des travailleurs de la santé dans des secteurs pas rentables parce qu'on aura remplacé des notions, des règles de service public par des notions de rentabilité, c'est la même structure. C'est-à-dire c'est une expulsion d'exigences de normes de rentabilité marchandes très élevées qui mettent à l'écart tout le reste. Et la mondialisation joue un rôle clé qui est pas seulement la forme d'économie monde, mais qui est aussi un modèle social, mais joue un rôle clé en retirant de manière très systématique tout ce qui empêchait la confrontation directe entre des producteurs pas productifs ou des secteurs, disons, un mode de satisfaction des besoins sociaux fondé sur d'autres critères que la rentabilité. Donc c'est en gros, c'est l'avancée de la sphère de la marchandise en expulsant ce qui protégeait d'une certaine manière ou organisait d'une manière, oui, protectrice des secteurs pas immédiatement hyper rentables.
À l'IGFM, des souhaits des hommes, toujours en compagnie de Michel Husson. Pour reprendre un autre mot d'ordre d'ACTAC, finalement, il semblerait que l'économie soit plus du tout mise au service de l'homme par cette structure de la mondialisation.
Cette mondialisation instaure ce qu'on pourrait appeler une dictature de la marchandise, c'est-à-dire que la satisfaction des besoins humains, qui est théoriquement le but de l'économie, où l'économie est un moyen pour satisfaire cet objectif, est subordonnée dorénavant et de plus en plus, sans aucun contrôle, sans aucune nuance, est subordonnée à l'objectif de rentabilité. Donc, au lieu de dire on va satisfaire les besoins et on s'organise de manière à le faire de manière rationnelle, économique, sans gaspiller les ressources, les choses sont inversées. C'est-à-dire que l'économie va dire quels sont les besoins qui sont dignes d'être satisfaits parce qu'ils correspondent aux normes de l'économie et les autres sont niés ou expulsés ou rabaissés au niveau service minimum qu'on va satisfaire vraiment parce qu'on est bien obligé de le faire, etc. Mais sans que ça soit un projet, un objectif réel. Donc ça sera une espèce de condition d'accompagnement du vrai fonctionnement de l'économie. Donc il y a un renversement total dans la hiérarchie, disons, où l'économie devient quelque chose qui, au lieu de définir le moyen, disons, au lieu d'être une technique permettant de définir le meilleur moyen de satisfaire les besoins, renverse complètement les choses et est la discipline ou l'espèce de mécanisme qui va déterminer quels sont les besoins qu'on peut ou qu'on doit réellement satisfaire.
Pourtant, vraiment, quand j'écoute un petit peu ce qui se dit à la radio, dans les médias d'une façon générale, le système qu'on a actuellement est vraiment le plus pertinent parce que moi, en tant que consommateur, je vois les coûts baisser, je vois mes besoins satisfaits tous azimuts. Donc je suis un petit peu étonnée de ce que vous dites.
Non, mais ça, c'est bon, c'est le discours très rase-mode. Mais en revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est justement il y a une remise en cause de cette espèce d'autosatisfaction du système. Et parmi les exemples de remise en cause, là encore, je pense qu'il est bon, parce que justement la mondialisation universalise un peu ces problèmes, de relier des remises en cause qui viennent de pays du Sud et de remises en cause de pays du Nord. Bon, dans le cas de la prétendue souveraineté du consommateur, l'objection majeure, c'est la satisfaction de tous les besoins qui passent par des services publics. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'espèce d'ultra raffinement dans la satisfaction d'un besoin très précis, du genre l'automobile, la couleur, le choix, etc., a pour contrepartie un coût social énorme. C'est-à-dire que ce que vous gagnez éventuellement, on peut discuter de ce côté-là, se paye par ce phénomène massif d'insécurité sociale qui est la contrepartie de ce prétendu supplément de bien-être, et qui passe par l'insécurité sur l'emploi, l'insécurité sur les trajectoires sociales, l'insécurité sur le devenir de vos enfants, etc., qui est cette société du risque que le MEDEF a désigné comme la valeur des valeurs. Une formule qui est absolument terrible, c'est-à-dire que le choix du modèle de voiture est une espèce de dictature, encore une fois, qui a pour contrepartie une dégradation considérable, et qu'on peut, y compris mesurer dans les résultats des élections récentes, une dégradation réellement considérable de la qualité de la vie sociale et surtout de la perception des trajectoires sociales. Bon. Et dans les pays du Sud, on a aussi maintenant des éléments critiques, et je crois un des points les plus intéressants, c'est l'étude de Stiglitz, la grande désillusion. Stiglitz, c'était l'économiste en chef de la Banque mondiale, qui s'est fait virer, parce qu'il était très critique vis-à-vis du FMI, qui a depuis eu le prix Nobel, ce qui lui donne une grande légitimité. Et ce livre est un plaidoyer d'une violence extraordinaire, où il montre, alors par exemple, j'ai sous les yeux cet exemple, il montre que dans les précédents du FMI de la Banque mondiale, il y a justement cette marchandisation de tout, et donc il y a cette idée qu'il faut rendre payant l'enseignement. Parce que paradoxalement, l'enseignement gratuit profiterait qu'aux riches, etc., donc avec un vernis social dans l'argumentaire. Et il donne, Stiglitz donne à chaque fois des arguments très concrets. Il dit, en Ouganda, le président, bon, avait un autre point de vue que celui des experts. Il disait qu'il savait qu'il devait créer un nouveau climat culturel où on s'attendrait à voir tous les enfants aller à l'école. Il dit qu'il savait qu'il n'y parviendrait pas tant qu'il y aurait quelque chose à payer. Il ignora donc les conseils des experts étrangers et abolit purement et simplement les frais de scolarité. La scolarisation monta en flèche. Voyant que chez les voisins tous les enfants allaient à l'école, chaque famille avait décidé d'y envoyer ses filles, elles aussi. C'est-à-dire, un des objectifs de la Banque mondiale, justement, dans son nouveau discours, c'est de mettre en avant le rôle des femmes, la revalorisation du rôle des femmes et de la scolarisation des filles. Ce qui avait échappé aux études statistiques simplistes, c'est la puissance du changement systémique. Donc, bon, il y a une accumulation très riche d'exemples comme ça, où, par exemple, un autre exemple qui est tout à fait, et qui même a fait vaciller un autre expert, qui est un expert du FMI, Jeffrey Sachs, à savoir le problème de la santé publique, à la fois sur le sida, mais aussi sur des épidémies, des maladies qu'on sait guérir, comme la malaria. Où il montrait à quel point l'organisation marchande de l'économie mondiale était allée à l'encontre d'une manière absolument brutale, cynique, à l'encontre des exigences de santé publique. C'est-à-dire que, pour reprendre cette idée marchande de prix unique, de marché unifié au niveau mondial, la Bible, la philosophie des industries de la pharmacie qui produisent des médicaments contre le sida, c'est le refus de moduler le prix en fonction de la réalité, disons, du pouvoir d'achat des clients potentiels. Et donc, c'est vendre à ceux qui ont les moyens, parce que baisser les prix pour les plus pauvres qui sont les plus touchés par le sida, ça serait réduire leur possibilité de rentabilité. Et Sachs insiste aussi sur le fait qu'on ne fait pas des études et on ne fait pas de la recherche de médicaments, y compris dans des épidémies qui tuent beaucoup de gens, comme la malaria, parce que c'est pas rentable et parce que c'est ce règne de la marchandise qui s'est imposé. Donc il y a des éléments, même venant de l'intérieur, qui sont des éléments très critiques sur des problèmes absolument essentiels, basiques de la vie en société, qui font que cette dictature de la marchandise a des effets terribles et est en train de perdre beaucoup de sa légitimité comme modèle social.
On gardera le dernier petit élément de la dernière émission d'Aligre FM, d'Aligre FM des Dissous et des Hommes, pas d'Aligre FM, heureusement, mais justement pour peut-être parler d'une version plus optimiste de l'organisation économique, on dira, peut-être pas de la mondialisation. Aligre FM toujours, et les oiseaux de passage de Brassens, que je dédie à un certain Jacques qui a été mon premier professeur d'économie. Eh bien, pour la mondialisation, ce qui m'intéresse quand même, c'est cette histoire de régulation. C'est ce qu'on entend sans arrêt cette fois dans les médias. Il faut réguler la mondialisation. Il faut même mettre un gouvernement mondial, si j'ai bien compris. Enfin, visiblement, on peut se sortir de cette mondialisation et faire en sorte qu'elle soit finalement presque bénéfique ou tout à fait bénéfique.
Et je crois que c'est un des symptômes de la crise de légitimité. C'est-à-dire que dans la théorie pure, la mondialisation se suffit elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être régulée. Les mouvements de capitaux assurent cette régulation. Et donc, si on parle de régulation, il ne faut pas, disons, tordre le nez ou faire le difficile. Parce que je crois que c'est un avis de reconnaissance de ces difficultés évidentes, de ces résultats de fonctionnement qui sont autant de désaveux. Donc, le problème, c'est que sous le terme de régulation, on veut passer quelque chose qui maintienne, pour l'essentiel, la réalité et qui formellement essaye d'organiser ça. Alors que, bon, mais en même temps, on ne peut pas être contre la régulation. Parce que il y a des extrémistes de la dérégulation qui sont, y compris contre toute forme d'organisation. Bon, par exemple, il y a des ultralibéraux qui sont contre l'OMC parce qu'elle est déjà un instrument de régulation. Et donc nous, on est contre l'OMC pour d'autres raisons, parce qu'elle n'est pas suffisamment un instrument de régulation. Et donc, je pense que les questions clés, c'est justement de manière symétrique dans le Nord et le Sud, c'est affirmer la priorité, le droit absolu aux pays du Sud d'être protectionniste. Je dis ça exprès parce que protectionniste est un mot qui est mal vu, mais qui est le droit absolu de ces pays de s'organiser de manière à maîtriser, contrôler leur insertion dans le marché mondial. C'est ce droit. Ensuite, on peut discuter, avoir des idées sur comment ils doivent s'y prendre, etc. Mais je pense que, vu des pays du Nord, on n'a pas non plus à décider pour eux ce qui est bien pour eux. Mais c'est de leur. Mais ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le fait que dans la mondialisation, le fonctionnement, l'OMC, les accords, par exemple comme l'AMI sur l'accord multilatéral sur l'investissement, l'espèce de règle du jeu, c'est de leur dénier ce droit. C'est de leur dire que tout contrôle, toute tentative d'organiser va être déclaré comme illégal. Hein, c'est-à-dire d'affirmer ce que j'appelais tout à l'heure les droits du capital de liberté de mouvement contre, justement, toute tentative. Bon. Et donc, je pense que, disons, les gens qui sont favorables à une autre mondialisation doivent, du point de vue des pays du Sud, être absolument fermes sur cette question et dire c'est un droit absolu pour ces pays de prendre des mesures de protection contre une insertion qui a des effets en retour très pervers. Et dans les pays les plus riches, je pense que la question clé, c'est de réduire, disons, la sphère de la marchandise et de revendiquer notamment en matière de services publics et de protection sociale, et en matière de droits des licenciements, des droits qui sont opposés aux droits de propriété et au principe que la marchandise est le meilleur des systèmes, etc. Donc, par exemple, pour prendre une question concrète qui a eu un grand rôle, enfin un rôle assez important dans la discussion programmatique dans les élections, je pense qu'il faut être contre le discours consistant à dire que le meilleur des mondes, c'est celui où on paye le moins d'impôts, que c'est une régression absolue et que les impôts sont justement un moyen de redistribuer les revenus et de rendre rentables des choses qui, au niveau strictement marchand, ne le sont pas, et donc de réduire la sphère de la marchandise. Et que c'est très dangereux que le débat se soit limité dans les dernières élections, à savoir s'il fallait réduire les impôts beaucoup, très vite, ou un petit peu, ou progressivement. Alors que la question, ça aurait dû être, normalement, de savoir si on était pour une socialisation, pour une répartition différente des revenus, contre un principe marchand qui est effectivement de réduire au maximum tout ce qui est intervention de l'État, tout ce qui est redistribution, ce qui est répartition dans le système de retraite, etc. Et tout ça forme un tout, hein, c'est-à-dire, de la même manière que la mondialisation veut faire sauter ces obstacles, l'idée d'une mondialisation autre, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer absolument les échanges entre les pays, mais c'est de les maîtriser et de faire que la vraie priorité, ce soit le développement, la satisfaction des besoins sociaux dans chacun de ces pays en tenant compte de leurs différences, etc. Et donc, la priorité absolue, c'est de réduire le champ, l'extension, le domaine de la marchandise.
Eh bien, c'était la dernière émission des Sous et des Hommes, donc tous les cas pour cette saison. On devrait réécouter, je pense, pendant cet été des rediffusions, des meilleurs morceaux, si on peut dire. Je vous remercie particulièrement, Michel Husson, d'une part parce que vous avez soutenu le projet de cette émission avant même qu'elle n'existe. Vous êtes venu même faire une émission l'été dernier, il fallait vraiment beaucoup d'abnégation. Et puis, vous avez encore accepté de venir 2 semaines nous parler donc de la mondialisation. Je me permets de conseiller la lecture de votre livre qui s'appelle Le Grand Bluff Capitaliste. C'est publié aux éditions La Dispute. Ça a été publié il y a 6 mois à peu près, je pense.
À peu près, oui.
À peu près.
Et merci pour votre émission.
Donc, moi, je voudrais remercier en particulier un de mes auditeurs qui s'appelle Gaël, très très fidèle, et qui m'envoie des petits mots pour me dire ce qu'il pense des émissions. Si vous voulez le faire à votre tour, n'hésitez pas. C'est www.alyfm.org. Dans la grille des programmes, il y a une petite enveloppe sous le titre des Sous et des Hommes. Mais je suis au bout. Dites-moi si les émissions vous plaisent, vous ont plu, si vous les avez écoutées. Parce que nous, ici, on ne sait pas exactement qui est de l'autre côté du poste. Je remercie aussi vivement, je doute qu'ils m'écoutent, mais on ne sait jamais, les nombreux économistes qui sont venus me voir, économistes, journalistes, etc., qui m'ont fait vraiment l'honneur de venir défendre cette émission. Qui parle d'économie, je l'espère, un peu différemment de ce qu'on peut écouter sur les autres, dans les autres émissions. On se retrouvera sans doute, peut-être, j'espère en tout cas, l'année prochaine, en septembre. À bientôt.